Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous partons au Liban aujourd'hui avec un roman flamboyant, aux États-Unis pour un célèbre complot controversé et à Alger sur les traces de Camus. Les frères Kennedy sont aujourd'hui encore au cœur des enquêtes et des théories complotistes. Le nouveau roman de Marc Duguin raconte le destin funeste de cette fratrie. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous croyez personnellement que les assassinats de JFK et de Robert Kennedy sont des complots ?
Moi j'en suis totalement persuadé. Oui.
Ah, totalement persuadé ?
Totalement persuadé, j'ai pas le moindre doute.
Pas le moindre doute ?
Pas le moindre.
C'est une obsession chez vous, paraît-il ?
Je ne sais pas si c'est une obsession, mais en tout cas, c'est une conviction. La conviction, c'est qu'ils ont bel et bien été assassinés, l'un et l'autre, et par une conjuration.
D'accord. Vous allez tout nous expliquer tout à l'heure. On va décrypter ensemble avec vous, Marc Duguin. Il sera question d'Albert Camus dans le roman de Marc Duguin, mais aussi et surtout avec la bande dessinée de Jacques Ferrandez, qui adapte le premier homme avec plus de 150 planches, un roman qui devient graphique et qui va séduire un large public. Et puis nous vous emmènerons dans les quartiers populaires de Beyrouth, avec le récit très sexuel d'Abla Faroud, une comédienne et auteure québécoise d'origine libanaise.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et en raison d'un mouvement de grève en France, les moyens techniques pour réaliser cette émission sont réduits et les liaisons perturbées, vous allez l'entendre, toutes nos excuses par avance. Quatre libraires sont quand même là, comme chaque semaine, en multiplex pour représenter le Canada. On retrouve Marie-Noëlle Blé de la librairie Raffin à Montréal. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Il va bientôt justement aller à Montréal, paraît-il. C'est notre libraire français Grégoire Courtois. J'ai quelques indiscrétions comme ça. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Vous allez vous installer au Québec ? Non.
Non, malheureusement. Malheureusement.
Vous y allez quand ?
Au mois de novembre.
Le Salon du Livre de Montréal ?
Absolument.
D'accord, on va se croiser alors.
Bah ouais, j'espère.
Vous serez peut-être sur le plateau.
Non, je ne sais pas. J'ai plein de choses à faire, vous savez.
Ouais, c'est ça. Vous êtes libraire à Auxerre dans la librairie Oblique. Annick Dor est en Belgique. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Suisse, libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose, et vous interviendrez bien sûr tous les quatre, tout au long de cette émission, car Grégoire est encore un homme. Bonjour Jacques Ferrandez.
Bonjour.
Comment allez-vous Jacques ?
Très bien, merci.
Après l'adaptation en BD de L'Étranger, formidable réussite en 2015, vous adaptez le premier homme, livre plus compliqué car inachevé, Camus est mort avant de le terminer, mais on commence, vous le savez toujours, cette émission par une histoire racontée par l'un de nos invités, histoire personnel. Que voulez-vous transmettre, Jacques ?
Oh, transmettre, je ne sais pas. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée. J'étais invité pour présenter mes livres, mes albums à Abu Dhabi. Il y avait un festival du livre. Il y avait une librairie francophone qui était là dans le festival, tenue par une franco-libano-brésilienne,
ah oui.
Renata, et qui m'a expliqué comment elle faisait quand elle recevait des bandes dessinées où il y avait un petit peu, vous voyez, des corps dénudés. Donc elle s'enfermait dans son bureau. Elle avait une batterie de petits feutres pour mettre des barésilles où il y avait des jambes dénudées, ce qui, à mon sens, est une forme d'érotisme peut-être un peu supérieur,
finalement,
et
oui.
Puis de mettre des soutiens-gorge là où il y avait un sein, etc. Parce qu'en fait, elle faisait passer l'exemplaire qu'elle avait retouché au comité de censure, qui lui donnait l'imprimature, et elle pouvait ensuite mettre les albums dans sa librairie, en espérant qu'il n'y ait pas de visite, de contre-visite.
D'accord. Vous avez connu la censure, Marc Duguin, vous ?
Non.
Non. On vous a cru mort, par contre.
Oui, c'était une dame dans un dîner très officiel au Maroc, qui me dit... Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, mais qui est mort maintenant, il était très très vieux. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a écrit ? Elle me dit, oh, bah, surtout un livre qui m'avait bouleversé sur la guerre de 14, la chambre des officiers. Et je lui dis, écoutez, je suis désolé, mais c'est moi qui l'ai écrit et je suis toujours là. Et elle ne me croyait pas, il a fallu que je sorte mon passeport.
Ah oui, quand même.
Ouais. Et finalement, voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Voilà, double histoire. Aujourd'hui, exceptionnellement, Marc Duguin et Jacques Ferrandez sont dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Abla Faroud.
Bonjour.
Votre roman paru chez VLB au grand soleil caché vos filles se lit presque comme une pièce de théâtre. Vous arrivez avec brio à décrire le décor. On est vraiment dans l'ambiance de Beyrouth avec une famille qui retourne au pays dans les années 60 après un exil au Québec. La famille Abdelnour arrive dans leur quartier de Sine El Fil, un lieu grouillant de vie, un lieu cosmopolite, un lieu apaisé aussi. Mais il faut se réhabituer à cette ambiance.
L'ambiance est extraordinaire. C'est un peu comme ce bruit qu'on entend.
C'est ça, on a retrouvé en fait l'ambiance, enfin on a cherché l'ambiance de Sine El Fil dans les rues de Sine El Fil. Je vois que ça vous perturbe, mais c'est ce qu'on entend derrière. On est vraiment là à Beyrouth, dans les rues de Sine El Fil. Et c'est ça cette ambiance.
Laissez-moi rire là un peu. Bon, oui, qu'est-ce que vous me demandiez donc?
Je vous demandais rien de spécial, juste de décrire ce quartier qui est, comme vous l'écrivez, un lieu grouillant de vie, un lieu cosmopolite et apaisé, en tout cas dans les années 60.
La guerre n'était pas arrivée, finalement, oui c'est vrai, il y avait quelque chose de très vivant, comme je n'avais pas encore vu au Québec. Le Québec est paisible par rapport à Sinfuil et Beyrouth.
On va laisser la place à nos libraires à travers la francophonie à Blafaroud. Les libraires qui ont lu votre roman « La France, le Canada et la Suisse ». Les trois ont lu ce livre. On commence par qui, Abla? Vous préférez commencer par qui?
La personne qui est en face de moi ici, là.
Dans les studios, voilà, dans nos studios de Montréal. Oui. Avec Marie-Noëlle Blé pour le Canada. Marie-Noëlle.
Oui, alors parce qu'il n'y a jamais assez de livres qui raconteront la difficulté de l'immigration, ce roman est important. Vous avez à Blafaroud, en puisant dans votre passé, disséqué des idées passionnantes sur le sujet. La polyphonie que vous déployez dans votre roman permet de fouiller les différents enjeux du déracinement. On dénote quand même une certaine amertume et le roman donne parfois l'impression d'un procès du Liban des années 60, mais il éclaire de façon très touchante l'importance de s'affranchir des règles et parfois des gens pour vivre sa vie.
Grégoire Courtois, qu'en pensez-vous?
Alors moi, je rejoins à peu près Marie-Noëlle sur le constat. Après, j'ai eu une impression qui était un petit peu plus dure, parce que c'est vrai que c'est une plume qui est très belle, hein, ça on l'a dit, c'est un très très beau texte, c'est magnifiquement écrit, mais cette amertume, moi j'ai trouvé ça complètement étouffant en fait, hein, j'ai trouvé ça l'ambiance familiale.
Ah bon,
l'ambiance...
Ouais.
Ah ouais, moi ça m'a un peu pesé, comme beaucoup des personnages hein, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ce Liban, en fait, tout le monde a envie de le quitter quand on lit ce livre.
Pas tant que ça, hein. Attirance, ouais. Répulsion, on va dire, on va y revenir. Hein. On va laisser la parole à Dominique Bressoux en Suisse qui veut intervenir. Dominique.
Oui, alors moi je suis d'accord avec les deux pour quelque chose, puis pas pour autre chose. C'est l'université de la problématique du retour au pays mise en évidence. C'est vrai qu'aucun émigré peut revenir au pays des années après l'avoir quitté sans voir ses rêves voler en éclats. Mais ce livre, c'est aussi une plongée passionnante au plus intime d'une famille et il est vraiment vivant, sensuel et vibrant.
Oui, exactement, je suis d'accord. Abla Faroud, vous voulez réagir aux commentaires des libraires?
Ben, j'écoute tout ça, puis je trouve ça beau. Chacun a sa façon, a lu le livre, et vraiment, il y a vraiment les deux pôles. Et c'est ça que j'ai senti, moi, quand j'étais jeune et que j'ai vécu tout ça. Parce qu'on aime ce Liban et on le déteste en même temps. Il y a tout. C'est-à-dire, il y a ces gens tellement extraordinairement gentils et tellement à cheval sur les principes. Tout est double. Et en même temps, il y a le soleil qui défait toutes ces règles.
Alors ce soleil, justement, ce soleil qui rend les corps ouverts et réceptifs, dites-vous, on a un rapport au corps différent quand on est né dans une région méditerranéenne, à Blafaroud?
Il faut vraiment se méfier du corps. Quand on est né là-bas, on se méfie du corps parce que le corps est flamboyant, comme vous avez dit au tout début. C'est-à-dire qu'il a envie de sexe, il a envie et tout le corps bouge. Et en même temps, toutes les règles sont contre ce corps qui doit respirer.
Mais alors, vous c'est dites, ça, la sexualité qui tient une place très importante hein, au Liban, vous l'écrivez hein, dans ce roman. Vous dites, dès les premières pages, ce pays est un sexe ambulant.
J'ai dit ça?
Oui.
C'est vrai. C'est totalement vrai. Et le sexe est dans les yeux des hommes et des femmes d'une autre façon aussi. Mais les femmes, bon, jouent le rôle de femmes aussi, qui se protègent, qui se cachent, mais en même temps qui se dévoilent d'une autre façon. En tout cas, c'est trouble. il y a quelque chose qui était vraiment difficile à vivre pour la jeune fille que j'étais et que j'ai essayé de transmettre dans ce livre.
Ouais. Vous écrivez « La seule chose qui ne te laisse jamais tomber ici, c'est le climat ». Et un peu plus loin, nager dans la Méditerranée est une expérience mystique. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Jacques Ferrandez autour d'Albert Camus, parce que pour lui, pour Albert Camus aussi, c'était important, le rapport au corps, au soleil, à la natation, la Méditerranée, tout ça. Et vous dites « On sent qu'on est au centre du monde quand on se baigne comme ça dans la Méditerranée ». Probablement d'ailleurs, je rajouterais à Blafaroud dans une nudité absolue.
Si vous le rajoutez, vous pouvez, mais j'ai... C'est vrai que l'eau, quand il y a du soleil, nager dans la mer, je pense que c'est une expérience unique, mystique aussi, oui.
Il y a une grande frustration sexuelle, en tout cas, en raison du désir des hommes et de la méfiance des femmes. Vous expliquez cela, vous le décryptez tout au long du livre. Les hommes, vous dites, sont malicieux et pervers. Et quand une fille perd sa virginité avant le mariage, c'est un désastre. Il y a des scènes très dures, d'ailleurs, sur ce sujet, dans votre roman, Abla.
Oh, j'aime pas tellement parler de ces choses-là. Je trouve que c'est difficile de saisir l'ensemble de cette difficulté de vivre quand on est une fille au Liban à cette époque-là. Je sais pas si c'est mieux maintenant. Je pense que je suis un peu perdue là.
Pourquoi avez-vous du mal à en parler ? C'est drôle parce que vous êtes très virulente hein, à propos de l'homme, toujours physiquement vierge, dites-vous, parce que effectivement être puceau ça ne veut rien dire, alors que pour une femme c'est totalement différent. Et cette frustration sexuelle qui est décrite tout au long de votre histoire ?
Je l'ai vécue beaucoup moins finalement que la frustration de ne pas pouvoir faire mon métier de comédienne. Parce que ça, on dirait que j'étais capable de vivre avec, même si je le voyais autour de moi, la sexualité et tout, j'étais capable de passer à travers, mais de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir être comédienne comme je voulais, de ne pas pouvoir vivre ma vie d'artiste, ça c'était effrayant. Ça m'a tuée.
On va terminer avec une phrase qui est très universelle et qui résume énormément de choses, qui reste toujours d'actualité d'ailleurs. Vous écrivez à Blafaroud, changer de pays, c'est peut-être aussi changer son caractère, devenir quelqu'un d'autre. Êtes-vous devenu quelqu'un d'autre, vous, en partant au Canada ?
Si j'étais devenu quelqu'un d'autre, j'aurais moins souffert.
Merci beaucoup à Blafaroud. Merci infiniment d'être venu dans la librairie francophone depuis nos studios de Montréal. Au grand soleil, cachez vos filles, c'est le titre de votre roman paru aux éditions VLB. À bientôt, Abla.
À bientôt.
À bientôt. À suivre une adaptation en BD du dernier texte d'Albert Camus. Vous souvenez-vous du premier homme ? On va vous rafraîchir la mémoire, en tout cas avec Jacques Ferrandez dans quelques instants. Et on part dans le quartier le plus royal de Bruxelles dans 3 minutes avec notre reportage de la semaine autour du chat de Philippe Geluck. Un peu de musique avant cela avec le nouveau titre de Brigitte.
T'es belle quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur, il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Toujours ça passera, ça va, ça vient, ça s'en va. Dans 2 ans on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock'n'roll sur des vieux tagos. Si c'est la mer à boire, le grand fiasco, le chaos et son cafard, je t'en ferai des calembours et des comptines pour l'histoire. Tomber de chat, rive dans Scylla, si tu chiales, je coule avec toi. Viens, on danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera, ça va, ça. Éternel.
Le duo Brigitte avec son tout nouveau titre Palladium sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et chaque semaine, nous vous proposons cette saison un court reportage avec un auteur, un artiste, un écrivain ou encore sur la visite d'un lieu francophone. Aujourd'hui, on vous emmène à Bruxelles, dans le quartier le plus royal de Belgique, avec Philippe Geluck. Il vous présente en exclusivité et en avant-première les fondations du futur musée du chat.
Nous nous trouvons place royale, sur laquelle trône la statue de Godefroy de Bouillon, que vous connaissez de réputation. Donc c'est une place néoclassique qui est voisine du palais royal, du parc royal, de la rue royale, tout ce qui est ici c'est royal. Donc il y a le musée Magritte qui est là, on a le musée des instruments de musique qui est là, on a le Codenberg qui est l'ancien palais de Charles Quint, parce que les rois ont tout de suite vu que le quartier était plutôt bien pour eux, Charles Quint était là, mais beaucoup plus bas, il y avait des jardins, il y avait des palais en briques espagnoles il y a des siècles, tout ça a été recouvert à un moment et maintenant on a reconstruit là-dessus. Maintenant, c'est ici l'histoire et les tours rez-de-chaussée. Si on veut visiter Charles Quint, c'est au sous-sol. Place Royale, elle est très belle. La ville de Bruxelles voudrait la rendre un petit peu plus vivante. C'est-à-dire que c'est une place un peu austère. Il ne peut pas y avoir d'enseigne. Il ne peut pas y avoir un bistrot. Tu vois. Il faudrait quelque chose d'un petit peu plus vivant, même si elle est très fréquentée. On va essayer avec mon projet d'amener un petit peu de jeunesse dans le quartier.
On y arrive. Dans 2-3 ans, aux alentours de 2020, il y aura le musée du chat qui va s'installer justement presque à côté de cette place royale, en tout cas quelques mètres de là.
Oui, Magritte, Charles Quint et moi, nous serons voisins. et même nous serons voisins du roi et de la reine des Belges qui habitent juste en face.
Alors on va voir l'endroit en avant-première.
Je vous montre l'endroit parce que le bâtiment, je ne peux pas vous le montrer parce que le bâtiment actuel doit être rasé et un nouveau bâtiment va être construit. Il s'appellera le musée du chat et du dessin d'humour, parce qu'il ne sera pas juste un mausolée à ma gloire, il va être un lieu d'accueil pour tous ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier et qui m'ont emmené vers l'humour, les Sempé, Chaval, Steinberg, etc. Ici, on voit, vous voyez cette grille qui est fermée, surmontée par deux lions, ça s'appelle l'entrée des lions. Ce sont des félins aussi. Et le musée du chat va se retrouver, on voit juste le bout de machin qui dépasse là.
Là, le bâtiment gris,
ça,
c'est
le bâtiment, oui, qu'on va abattre. D'accord. C'est un musée un peu caché. Mais c'est juste magique parce que regardez, on est chez le roi et la reine.
On a une esplanade incroyable là, juste devant nous. Là, c'est la demeure du roi.
C'est la place des palais.
Voilà.
En face, vous avez le palais des académies. Et pile poil à l'opposé, il y aura le musée du chat et du dessin d'humour. Nous nous trouvons au numéro 6 de la rue Royale avec ses deux piliers sur lesquels se trouvent deux ronds qui pourraient être des bulles du chat.
Donc
je vais y faire graver une connerie si les monuments.
Si le roi est d'accord.
Si le roi est d'accord, évidemment.
Ah oui. Non, c'est vrai, c'est sérieux ça.
On ne peut pas proférer n'importe quoi en face du palais royal. Et c'est pas le directeur des musées royaux qui me dira le contraire, qui passe justement dans le quartier, c'est Michel Draguet.
Bonjour Michel.
Donc j'ai des voisins formidables, le roi, Michel Draguet, et Charles Quint et quelques autres.
Charles Quint aussi, oui. Ouais. Mais il est moins présent quand même.
Hein. Il vient plus très souvent, il fait moins le malin maintenant. Il nous a bien fait chier à une époque, surtout avec son fils Philippe II, l'ignoble Philippe II.
L'intégralité du reportage de Philippe Geluck dans le quartier royal de Bruxelles et dans le musée Magritte est à retrouver en intégralité sur le site internet de la librairie francophone Estivale. Et le nouvel album du chat sortira le 4 octobre aux éditions Casterman. Chacun son chat, c'est le titre. Et selon Geluck, c'est à pisser de rire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
On reste dans le dessin, moins à pisser de rire, mais avec Jacques Ferrandez qui est dans la librairie pour le premier roman en BD qui sort cette semaine chez Gallimard. C'est plutôt un roman graphique qui complète votre cycle graphique camusien après le chef-d'œuvre que vous avez produit en adaptant L'étranger. C'est le dernier texte de Camus auquel vous vous attaquez. Nous allons voir si nos libraires sont toujours séduits. En tout cas, vous prenez un sacré risque, Jacques, parce que c'est un roman inachevé. Camus est mort dans un accident de voiture avec son éditeur Michel Gallimard avant de le terminer.
Oui, cette histoire est connue maintenant, c'est que cet accident qui a coûté la vie à Camus fait que quand on a déblayé les débris de la voiture, il y avait une sacoche dans laquelle il y avait 144 feuillets d'une écriture très très serrée, assez difficile à lire, et qui était donc le début de ce que devait être ce roman. Ouais, et ce roman devait être un roman beaucoup plus ample, puisque Camus disait lui-même qu'il voulait faire son Guerre et Paix cette histoire.
Donc on imagine un roman très dense, pas du tout de 140 pages, mais plutôt de 300 ou 400. Et on retrouve cette sacoche intacte, c'est ça qui est très étonnant, parce que l'accident est très violent, et la sacoche est intacte, le manuscrit est intact, mais on l'a publié qu'en 1994, on a attendu 34 ans.
Oui, alors si vous voulez, bon, l'histoire c'est que Francine Camus, donc la veuve d'Albert Camus, s'était demandé s'il était opportun de publier ce roman à partir du moment où il a été donc dactylographié, déchiffré. Et là, l'entourage de Camus a dit non, c'est peut-être pas le moment, ça va peut-être plutôt desservir l'œuvre d'Albert Camus. Il avait eu le prix Nobel en 57, il était mort donc là, au début de l'année 60. La guerre d'Algérie n'était pas terminée, donc il y avait toute la polémique autour de la guerre d'Algérie. Et il a été jugé plus prudent à ce moment-là de le mettre un peu au frigo, si on veut. Et c'est Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, qui a repris, disons, entièrement le manuscrit pour en faire la traduction, on peut dire, et qui a été publiée en 1994.
C'est effectivement quasiment une traduction, vous avez raison de le souligner. Et il prend toujours soin d'écrire à la troisième personne. Du coup, Jacques, j'ai relu le premier homme dans la Pléiade, là, que j'ai là, donc voilà, enfin, pas toute la Pléiade, mais en tout cas ce texte-là, et je l'ai lu en parallèle de votre bande dessinée, pour comparer.
Alors,
vous prenez certaines libertés.
Oui.
Parce que vous écrivez souvent à la première personne. Donc vous associez directement le personnage de Jacques au personnage d'Albert. Mais Albert, c'était pas son intention exactement, ça.
Ah, justement, moi je crois avoir fait bien la distinction dans mon travail d'adaptation entre Albert Camus et sa biographie et l'histoire de Jacques Cormeris. D'ailleurs, bon, je me suis efforcé, alors peut-être vous allez me dire que c'est raté, mais je me suis efforcé de faire en sorte que mon personnage ne soit pas le portrait d'Albert Camus, que ce soit un homme d'une quarantaine d'années dans les années 50. Donc pour moi, il n'était pas question de faire la biographie de l'écrivain Albert Camus.
Non, mais d'adapter le texte.
Et surtout de tirer ça vers la fiction, parce que ça me permettait du coup d'avoir un peu plus de liberté sur des éléments qui ne sont pas non plus forcément dans la vie d'Albert Camus.
Eh oui, mais vous savez qu'on est pointilleux quand on parle d'Albert Camus. Il y a des spécialistes qui vont être irrités.
J'en connais. Et je peux vous dire que certains de ceux que je connais et qui sont très pointilleux justement sur l'œuvre d'Albert Camus m'ont déjà adoubé et m'ont déjà manifesté leur satisfaction par rapport à cette adaptation.
Même lorsque vous êtes au bord de la mer, on parlait tout à l'heure de la mer Méditerranée avec Abla Faroud, que vous avez ces gamins qui se baignent dans le livre, dans le texte original. Il se baigne complètement nu et il y a ce rapport au corps, ce rapport au soleil très important chez Camus, sauf que vous avez jugé opportun de souligner la pudeur de certains gamins qui ne se baignent pas complètement
nu. Alors il y en a un qui est nu, mais c'est pas précisé qu'ils sont tous complètement nus.
Dans le texte original, si.
Il y en a un qui dit à l'autre, t'as pas honte de tout montrer comme ça, mais...
Dans votre BD, oui, mais pas dans le texte original.
Alors là, écoutez, reprenons.
On va le reprendre après l'émission.
Non, mais en effet, il y a des choses qui sont très précises dans le texte.
Je ne veux pas faire le journaliste radical, mais c'est juste que...
Il y a des choses qui sont très précises dans le texte, d'autres qui laissent effectivement plus de place à l'imagination.
Le rosé qui devient anisette aussi à la chasse, par exemple. Des petits détails comme ça.
Dites donc.
Non, mais on se demande pourquoi vous avez changé ça. C'est ça ma question en fait. Pourquoi vous avez changé comme ça des détails assez insignifiants.
J'ai dû changer des choses. D'abord, effectivement, vous le soulignez, le pronom personnel, puisque
c'est plus important.
Le personnage de Jacques Cormeris dit je, puisque c'est son histoire à lui. Et alors qu'évidemment, dans le premier homme, c'est il. Donc, en effet, j'ai pris cette liberté-là. Après ça, sur le rosé et la nisette, vous n'allez pas non plus me chercher dans ces détails.
C'est un fait, Jacques. Vous savez qu'on aime beaucoup votre travail, donc je me permets. Grégoire Courtois, Courtois avait adoré justement L'Étranger, vous étiez venu ici pour en parler. Qu'en pensez-vous de celui-ci ?
Bah écoutez, moi j'ai retrouvé d'abord le trait, hein, qui est un trait superbe, et puis tout la recherche sur les tonalités, qui est vraiment magnifique en termes graphiques. Ensuite, moi j'avais beaucoup aimé dans L'Étranger le côté énigmatique de Meursault, hein, qui était vraiment très retranscrit, et qui était avec un espèce de silence très mystérieux comme ça. Et là, j'ai trouvé finalement, en comparaison, parce que je peux pas m'empêcher de faire la comparaison, que du coup c'est devenu un petit peu plus bavard. Alors bavard, pas au sens péjoratif du terme, mais ça parlait beaucoup plus, c'est très instructif, c'est très intéressant, mais du coup on perdait ce côté énigmatique. Moi c'est ça qui m'a un peu dérangé dans cette adaptation-ci.
Alors ça, si je peux me permettre, pour défendre Jacques, c'est le propre de cette œuvre-là par rapport à L'Étranger.
L'Étranger parlait beaucoup, beaucoup. Non, le roman, non, L'Étranger parle beaucoup, alors que la BD parlait beaucoup moins, ça rendait quelque chose de
L'Étranger
très, très
laisse beaucoup de place aussi à la réflexion, un peu moins Le Premier Homme. Bref, Annick Dor est en Belgique, elle veut intervenir. Annick, avez-vous aimé cette adaptation?
Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas lu le texte de Camus, je l'ai découvert donc avec l'album, donc c'est vrai que j'ignore du coup s'il est une adaptation fidèle au roman ou pas, mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment magnifique, et puis c'est extrêmement touchant, hein. On découvre tout le fossé culturel qui existait entre le grand écrivain et sa famille analphabète. On découvre aussi la figure de l'instituteur, ce personnage de l'ombre, mais ô combien important dans le parcours du jeune Camus. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un album vraiment très sensible et dont le dessin donne vie vraiment à l'Algérie, à ses couleurs et à ses chatoiements. Donc c'est vraiment une réussite d'après.
On apprend effectivement beaucoup de choses, Jacques Ferrandez, fidèle pour le coup à l'œuvre de Camus. Il y a le personnage du professeur qui est très très important dans la vie de Camus et dans la vie de Jacques, donc ce personnage, et aussi la figure du père. Le père qui en 1905 est appelé pour se battre contre les Marocains, et il découvre un homme mutilé, il le raconte, hein, ça Camus, un homme mutilé au sommet d'une colline de l'Atlas. Et il est révolté parce qu'on l'a émasculé, on lui a mis le sexe dans la bouche, enfin, c'est absolument horrible. Et il dira une phrase qui va marquer Camus toute sa vie, tout est là, on peut dire que tout est là, à la fois le professeur, qui est un professeur magnifique, d'une intégrité absolue, et cette phrase du père en 1905 qui dit « un homme, ça s'empêche ».
Oui, c'est une phrase cardinale chez Camus, c'est ce qui structure aussi toute sa réflexion par rapport à l'humanisme. Enfin, ce qui révolte Camus, c'est toute cette barbarie qui est à l'œuvre au moment où il écrit Le Premier Homme, c'est-à-dire on est en plein pendant la guerre d'Algérie, il a fait son appel à la trêve civile en janvier 1956, qui a été un échec. Cette notion qui lui a été inculquée par un père qu'il n'a jamais connu, oui, c'est-à-dire sur les récits qu'on peut lui faire au moment où il fait cette recherche sur le père. Mais ce qui est important justement dans ce roman, je pense que Camus avait à cœur de le faire au moment précis où il se trouve excommunié du milieu des intellectuels français, en plein justement dans une période où on est obligé de choisir son camp par rapport à la guerre d'Algérie. Lui, il peut pas, évidemment, d'abord il n'est pas suspect d'être un soutien de la France coloniale en Algérie, mais il ne se résout pas à une Algérie qui se ferait sans ces Français d'origine, c'est-à-dire sans ces gens de peu dont il va se charger de raconter l'histoire. Et du coup, il veut aussi essayer aussi de rendre justice à cette population qui va être ensuite condamnée par l'histoire et quasiment jetée aux poubelles de l'histoire.
Il y a un passage du Premier Homme que vous retranscrivez dans la bande dessinée. Camus écrivait « La Méditerranée sépare en moi deux univers. L'un où dans les espaces mesurés les souvenirs et les noms sont conservés, l'autre où le vent de sable efface les traces des hommes. » Justement, il y a un bouquin qui sort, un autre aux éditions Mercure de France début octobre, un essai, Jacques Ferrandez, vous décrivez votre Algérie car vous êtes né à Alger. C'est un livre absolument génial qui s'intitule « Entre mes deux rives » et vous racontez votre travail, vous décrivez aussi l'Algérie avec des lieux incontournables comme la Grande Poste que l'on retrouve dans la bande dessinée, que vous dessinez aussi dans ce livre-là. C'est votre Algérie, ça?
Oui, c'est, si vous voulez, le point de départ, c'est un peu le making-of, on va dire, de ces bandes dessinées sur Camus.
Mais c'est un vrai patchwork, hein, oui, vous mélangez tout.
Oui, c'est-à-dire plus généralement, c'est mon rapport à Camus, mon rapport à l'Algérie et mon rapport à la Méditerranée. Donc ça fait
et à comme votre
ça.
Famille.
Oui, tout ça est évidemment très très mêlé, très lié.
Tout s'imbrique dans votre vie aujourd'hui.
Oui, puis voilà, peut-être au moment où j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, les rapports entre la France et l'Algérie, il était peut-être temps de montrer la manière dont j'ai pu mettre tout ça en place, échafauder toute cette construction, et c'était l'occasion avec l'adaptation du Premier Homme de Camus.
Avec un peu de schizophrénie?
J'espère pas. Non. Vous m'inquiétez là.
Je sais pas.
Tout de suite.
Non,
parce que en fait, jusqu'à présent, si vous voulez, alors on parlait d'autobiographie. Moi, j'ai toujours été un peu éloigné de ces courants aujourd'hui dans la bande dessinée qui ont beaucoup mis l'autobiographie, l'autofiction en scène. Et non, là, il s'agissait finalement de raconter un petit peu d'où vient tout ça et d'éclairer d'une certaine façon mon œuvre considérable.
Très bien. En tout cas, c'est très réussi. Je vous le conseille aux éditions Mercure de France, Entre mes deux rives, le 5 octobre, je crois. Merci, Jacques Ferrandez.
Merci à vous.
adaptation du premier homme en BD, c'est aussi chez Gallimard. Merci à vous. À suivre la chronique des libraires, leur coup de gueule et leur coup de cœur tous ensemble avec le nouveau roman aussi de Marc Duguin autour d'un célèbre et controversé complot. Vous allez porter un autre regard sur le double assassinat des frères Kennedy. Et il sera à nouveau question d'ailleurs d'Albert Camus, rencontre entre Jacques Ferrandez et Marc Duguin dans quelques minutes après une célèbre chanson reprise par le Colombien Yuri Buenaventura. À vous de deviner laquelle. Tout le monde joue, en plateau aussi. Écoutez, soyez concentrés. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Sauter mon chapeau
devant personne.
Maintenant j'ai rompu, j'ai fait les beaux.
Quand elle me sonne,
j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa ménote.
J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenades.
Je me suis fait tout petit devant ton poupin qui ferme les yeux.
Tout chaud, tout rôti contre sa bouche.
Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante.
Je suis faite
filet tout doux sous son empire.
Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire.
Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle.
Une jolie pervenche un jour a mouru à coup d'ombrelle.
Je me suis fait tout petit devant ton poupin qui ferme les yeux. Quand ses bras en croix, j'ai subi vraiment dernier supplice. Il en est des pires, il en est des meilleurs.
Mais à tout prendre, qu'on se part d'ici, qu'on se part d'ailleurs, s'il faut se pendre.
Yuri Buenaventura, qui reprend donc Marc Duguin, Jacques Ferrandez. Vous avez une idée?
Je me suis fait tout petit, Georges Brassens.
Oui, vous l'avez dit tout de suite. Hein, j'ai senti que vous aviez trouvé tout de suite.
J'ai trouvé tout de suite.
Marc, non.
Si, j'ai trouvé quand c'était en français.
Voilà la reprise de Georges Brassens sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de l'RTS et sur France Inter. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble pour les coups de cœur et les coups de gueule. Annick Dor est en Belgique, un gros coup de gueule, franchement très très bizarre, Annick.
Mais vous vous souvenez, Emmanuel, de l'énorme succès hein, qu'avait rencontré le livre Le charme discret de l'intestin de Julia Enders?
Pas du tout.
Alors le problème, c'est que les éditeurs, ils ont flairé un peu les fentes juteuses, si j'ose dire, avec ce nouveau créneau, et donc ils nous bombardent de livres sur cet organe mal aimé. Alors, j'ai quand même trouvé quelques exemples. Je prends soin de mon côlon. Je fais la paix avec mes intestins. Chouchoutez votre intestin. Le bonheur est dans l'intestin. Ou l'incroyable pouvoir de votre microbiote. Et il y en a encore plein.
D'accord.
Alors moi, je conteste évidemment pas la véracité de tout ça, mais je constate juste qu'on est un petit peu gavé et qu'à la fin, ça devient un petit peu écœurant.
Oui, ça, c'est le cas de le dire. Hein. Je savais même pas qu'il y avait autant de bouquins sur les intestins. C'est incroyable. Marie-Noëlle Blé, au Canada, justement, on va parler avec vous des filles qui ont mal au ventre. Même si c'est pas vraiment toujours les intestins, mais bon. C'est un coup de cœur pour vous, Marie-Noëlle.
Oui, un gros coup de cœur donc, pour cet album qui n'a rien à voir vraiment avec les règles ou l'intestin. C'est plutôt un manifeste féministe très percutant que je trouve absolument nécessaire et formidablement illustré. Donc, il est à la frontière du roman graphique et il relate les nombreuses situations de malaise ou de violence que vivent les filles de la tendre enfance à l'âge adulte. C'est une lecture qu'on peut aborder dès 12-13 ans. Et puis, ça me semble idéal pour accompagner des discussions et lancer de constructifs débats.
Pourquoi les filles ont mal au ventre aux éditions de Lysiatis. Merci Marie-Noëlle. Autre coup de cœur avec vous, Dominique Bressou, pour la Suisse.
Ah oui, alors là, c'est plutôt pour les plus âgés, parce que c'est un essai de Caroline Dayer qui s'appelle « Sous les pavés, le genre » aux éditions de l'Aube. Et Caroline Dayer, qui est enseignante et chercheuse à Genève, elle essaye de nous faire comprendre, en hackant le sexisme, le mécanisme du sexisme pour le détourner. Son livre, il est très clair, il aborde toutes les questions d'actualité sur l'homoparentalité, le mariage pour tous, bref, tout ce qui fâche, d'une façon posée et convaincante, et sous les pavés. Il y a beaucoup plus que du sable dans ce livre.
Caroline Dayer aux éditions de l'Aube. Voilà, désolé pour cette liaison. Je rappelle que suite à un mouvement de grève en France, on a une réalisation un peu perturbée aujourd'hui. Grégoire Courtois, vous êtes méchant encore une fois parce que je vois que vous attaquez les éditeurs.
J'attaque pas, hein, mais simplement moi je suis au bout d'une chaîne, hein, qui est la chaîne la grande chaîne du livre, hein, donc je suis libraire et donc je vends de l'intelligence, etc. Donc on est tous très vertueux.
Pas que de l'intelligence.
Non, mais plein de choses et on est tous auréolés d'une espèce de grande vertu, sauf que non, la chaîne du livre, comme beaucoup d'autres industries, n'est pas si vertueuse que ça. Il y a une étude qui vient de sortir, qui fait un petit peu du bruit dans notre petit monde, et qui montre qu'effectivement, beaucoup d'imprimeurs, beaucoup d'éditeurs aussi vont chercher leur pâte à papier au Brésil, là où la déforestation est très importante et de manière pas très vertueuse, ni socialement, ni écologiquement. Donc on attire l'attention. Cette étude, elle est très importante, il faut en parler et essayer de peut-être sensibiliser les éditeurs pour que, ils essayent d'arrêter de réduire les coûts et que peut-être on vive un peu mieux tous ensemble.
Et Marc Duguin acquiesce complètement à côté de vous.
Ah oui, absolument. Je pense que c'est scandaleux et qu'il faut absolument changer ça. Et il faut faire pression sur les éditeurs.
Vous faites, vous ? Vous veillez à ce que Gallimard n'achète pas sa pâte à papier au Brésil ?
Je ne savais pas qu'ils achetaient leur... Je ne sais pas ce que fait Gallimard.
Je
ne
sais pas si c'est Gallimard, mais, non, il n'a pas cité. C'est Gallimard, non ?
Les trois grands groupes, Editis, Madrigal...
Il y a Gallimard là-dedans ?
Je vais en parler avec Antoine Gallimard.
Et Hachette, parce que pour citer le troisième, Hachette aussi.
Hachette aussi. Bien là, tout le monde est servi. Merci Grégoire.
Il n'y a pas de quoi.
On est ravis.
Si je peux rendre service.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et avec Marc Duguin dans la librairie cette semaine pour Ils vont tuer Robert Kennedy. Robert Kennedy que vous décrivez d'ailleurs très inspiré par Camus après la mort de son frère JFK.
Oui, parce qu'en fait, Robert Kennedy était très catholique, très chrétien. Et le plus chrétien, le plus catholique de la famille, marié, 11 enfants, beaucoup de maîtresses aussi, mais enfin ça c'est pas la question. Et après la mort de son frère, il a fait une vraie dépression. Et en réalité, il n'a pas trouvé de recours contre cette dépression par le christianisme. Et donc, il s'est intéressé beaucoup à la philosophie, et en particulier à Camus, à l'existentialisme. Et il a trouvé chez Camus un réconfort, quelque chose qui s'adaptait parfaitement à sa situation et à une remise en mouvement après cette dépression lourde, vraiment lourde, qu'il a vécue après la mort de son frère.
C'est vrai qu'il est persuadé du complot, lui aussi, comme vous, avec Jackie Kennedy, qui va être avec Robert pour dire tout le monde est impliqué, la CIA, l'armée peut-être, il y a plusieurs options, on va en parler dans un instant. Et il renonce à évoquer publiquement cette théorie. Il adapte, vous dites, sa révolte, une révolte positive pour mieux construire son action. Oui, et ça, c'est camusien aussi.
Oui, absolument. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il aurait pu parler, parce que le premier défenseur de la théorie du complot, c'est Robert Kennedy. Parce que Robert Kennedy, il sait exactement ce qui s'est passé à Dallas en 4-5 jours. Mmh. Parce qu'il a des antennes partout, il était ministre de la Justice, bah oui, de son frère. Et cette décision de ne pas parler est très intéressante, parce que il y a la construction d'un mythe qui s'est faite, un mythe dont il va vouloir profiter pour sa propre carrière. Et si on met tout sur la table, sur l'assassinat de John, alors évidemment l'Amérique va beaucoup souffrir, mais le mythe Kennedy risque de souffrir aussi beaucoup. Et donc il pèse le pour et le contre, et il y a une discussion d'ailleurs un soir à la Maison-Blanche, juste avant que Jackie Kennedy quitte la Maison-Blanche, où il décide de ne pas parler, de ne prendre part à rien. C'est de ça. Ne pas témoigner devant la commission Warren et de rester complètement à l'écart.
Il sait qu'il est visé à son tour au moment où il décide de reprendre le flambeau de son frère et de partir à la conquête de la Maison Blanche. À partir de là, même Jackie Kennedy lui dit « Tu sais ce qui va t'arriver, ils vont te faire la même chose qu'à Jack ». Et il pense à cette phrase de Camus « Savoir que vous allez mourir n'est rien ».
Oui, parce qu'il a... C'est ce qui est très étonnant, c'est que finalement, chez Robert Kennedy, il y a l'idée qu'il n'a pas le choix. Il a le choix, finalement, entre une alternative qui n'en est pas une, c'est-à-dire soit mourir, dépérir, parce qu'il ne fait rien, et comme il est assez maniaco-dépressif, ça veut dire qu'il risque d'aller très loin dans la dépression, soit de se fixer comme objectif de remplacer son frère, et là, il sait pertinemment qu'il se fera descendre avant d'arriver au but.
Comme Jack, il savait. Ça, c'est sûr, il savait qu'il allait mourir. En même temps, il était atteint de la maladie d'Addison, donc...
John, il savait qu'il allait mourir, lui, de toute façon.
John, Jack, JFK, quoi.
JFK, il avait la maladie d'Addison, une maladie extrêmement invalidante, qui lui laissait effectivement moins d'années que la moyenne des gens à cet âge-là.
Jacques Ferrandez, vous saviez que Robert Kennedy était inspiré par Camus ?
Pas du tout. Bon. Je l'apprends.
On l'a appris aussi en lisant le livre de Marc Duguin. Dans ce roman, Marc, vous décrivez plusieurs pistes, alors plusieurs options qui vont expliquer l'assassinat de JFK dans un premier temps, qui vont aussi conduire à celui de Robert. La première option, c'est l'armée qui aurait manipulé la vérité en laissant croire qu'un pro-castriste a tué le président des USA, et c'est ce qui légitimiserait finalement le fait d'envahir Cuba. La deuxième option, toujours lié à Cuba d'ailleurs, c'est la catastrophe de la baie des cochons, parce que JFK a laissé se faire massacrer les Marines sans les secourir, et les survivants n'ont jamais oublié ça. Ils ont appelé au secours, et le président des États-Unis refuse d'envoyer des renforts parce qu'il ne veut pas être associé à cet envahissement.
C'est cet ensemble de raisons, si vous voulez, qui ont conduit à l'assassinat de John Kennedy, mais je pense que tout a démarré quand Kennedy est devenu président, et que l'armée lui a dit, écoutez, on a une avance technologique aujourd'hui sur les Russes, il serait bon qu'on les attaque tout de suite. Dans 5 ans, 10 ans, ils nous auront rejoints. Et Kennedy les a traités de cinglés. Donc, dès ce moment-là, il y a une rupture qui se passe avec l'armée. Et l'armée va le précipiter dans l'affaire de la baie des cochons, justement pour l'obliger à intervenir et créer le conflit avec Castro et donc avec les Russes derrière. Et il se laissera pas faire. C'est pour ça que quand le débarquement de la baie des cochons qui se fait avec des troupes paramilitaires tourne mal, il refuse d'envoyer l'aviation américaine. Il refuse que le drapeau américain soit mêlé à cette affaire-là. Et là, à ce moment-là, clairement, il signe son arrêt de mort.
De toute façon, rien n'est clair dans l'assassinat de JFK. Son garde du corps, celui qui est intervenu sur la limousine après les tirs, s'est confié. Et vous le racontez dans votre roman Marc Duguin. C'est Jacques Ferrandez, justement, qui est face à vous et qui va lire à l'antenne cet extrait sur la musique de la série canadienne Les Kennedy.
Hill, choqué, traumatisé de ne rien avoir pu empêcher, de ne pas avoir pu protéger le président, lâche des bribes de témoignages saisissants. Quand il est monté sur le coffre de la limousine pour protéger la première dame, une partie du cerveau du président s'y trouvait étalée. Les tirs venaient de partout. Il n'aurait jamais pu imaginer se trouver au milieu d'une telle embuscade. Derrière les détails macabres, Bobby comprend que la balle qui a projeté le cerveau de son frère sur le coffre du cabriolet ne peut avoir été tirée dans son dos. Dévasté, Hill est submergé par le sentiment d'avoir été abandonné par toute la sécurité du président. Personne n'a bronché, comme s'il s'était agi que de l'explosion du pétard d'enfant. Y a-t-il eu complot ? Prétendre le contraire, c'est un peu comme affirmer que les Alliés ne savaient pas que les nazis exterminaient les Juifs. Pire, ce serait nier leur extermination.
C'est une preuve, Marc Duguin. On peut se fier au témoignage de Hill ?
Si c'était le seul, je vous dirais, il faut être prudent. Mais le problème, c'est qu'il y en a... Et le nombre de balles qui ont été tirées... La trajectoire de la balle, on peut pas... Quelqu'un qui a un minimum de connaissances balistiques sait très bien...
Le magic bullet, comment ça c'était...
Oui, la balle magique, ouais. Mais surtout que cette balle qui vient de l'avant droit de la tête de Kennedy ne peut absolument pas avoir été tirée d'un dépôt de livres qui se trouvait derrière Kennedy, tiré par un ancien Marines qui était noté pour être le plus mauvais tireur de son régiment, avec un fusil lamentable qu'il avait reçu par la poste. Donc, si vous voulez, ça sent la manipulation dès le début, et tout le monde le sait. Et le premier à dire que tout est tellement énorme qu'on se croirait dans une république bananière, vous savez qui c'est ? C'est Eisenhower.
En 1968, un assassinat ébranle l'Amérique qui a toutes les apparences d'une opération sous hypnose. Selon certains, c'est l'œuvre d'un assassin programmé, hypnotisé par la CIA.
Et c'est la troisième option, Marc Duguin, la vengeance de l'ex-directeur de la CIA, Allen Dulles, humilié par le clan Kennedy, démis de ses fonctions toujours en raison d'un différend de position d'ailleurs sur la question cubaine. Et Dulles va continuer à œuvrer à la CIA avec un programme secret, le MK Ultra, qui consistait à développer des techniques de manipulation du cerveau. Et c'est vrai que l'attitude, à la fois d'Oswald et de Sirhan, peuvent laisser croire qu'ils ont subi soit une hypnose, soit une sorte de lavage du cerveau.
Je suis plus convaincu pour Sirhan que pour Oswald
parce que
à ce moment-là, le programme n'est pas encore à un niveau qui va atteindre au moment de l'assassinat de Robert Kennedy. Et c'est clair que les comploteurs ont tiré les leçons de l'assassinat de JFK. C'est quand même énorme de voir Oswald qu'on va chercher dans un cinéma où on lui a donné rendez-vous, en fait, et il sait pas du tout qu'il est le tueur présumé. Et après, au moment où il commence à dire « Non, mais c'est pas possible, j'ai rien à voir avec cette histoire-là », il y a un type qui rentre dans le commissariat de police et qui lui tire dessus. C'est Jack Ruby. Et Jack Ruby, c'est qui ? C'est un type qui tient une boîte de striptease et qui a des dettes phénoménales avec la mafia. C'est justement quand Eisenhower lit tout ça qu'il dit « Mais où est-ce qu'on est ? Dans quelle république bananière on est ?» Et pour l'assassinat de Robert Kennedy, les choses vont être très différentes. Ça va être préparé selon ce programme dont vous parlez, le programme MK Ultra, qui était un programme ancien, mais qui à ce moment-là est très vif à la CIA.
Il y a trois libraires qui ont lu votre roman, Marc Duguin. Honneur à la Suisse, Dominique Bressoux, pour ouvrir le bal des critiques, positives ou négatives. Dominique.
Alors, ce livre, il est vraiment très dense et puis assez ardu. Et disons-le, la masse de détails, de répétitions, de digressions, ça peinait à retenir mon attention. Et c'est au point qu'au milieu, j'ai eu comme une lassitude en me demandant un peu où vous vouliez en venir. Mais je me suis accrochée et j'ai fini par être comme envoûtée par votre écriture qui nous fait finalement vraiment ressentir le mal-être de Robert Kennedy.
Annick, pour la Belgique, êtes-vous d'accord ?
Mais non, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé.
Ah bah si, alors. Si vous êtes d'accord, elle a adoré aussi, Dominique.
Oui, sauf qu'elle disait que c'était...
Oui, oui c'est vrai, c'est vrai.
Lassée, moi pas.
C'est vrai. Allez-y, pardon.
Mais c'est vrai qu'on a, un peu l'impression qu'on a tout entendu, tout lu sur la saga des Kennedy, mais c'est sans compter justement sur l'immense talent de Monsieur Duguin. J'ai trouvé que vous forciez vos lecteurs à réveiller leur esprit critique parfois somnolent, et puis vous attisez notre curiosité. Et donc c'est vrai qu'en refermant le roman, on ne peut que se demander si les têtes pensantes de nos démocraties sont à ce point corrompues et despotiques.
Cela pose des questions, effectivement, Marc Duguin, parce que vous allez très loin dans l'enquête ou dans le roman. On ne sait plus d'ailleurs ce qui est vrai et ce qui relève de la fiction parfois. Il y a ce personnage, George, à Dallas, qui dirige la Zapata Petroleum Company. Zapata, qui est le nom de code donné au débarquement de la baie des cochons. Le nom de George, qui apparaît sur le registre de l'hôtel Sheraton à Dallas la nuit du 21 au 22 novembre 63, la nuit qui a précédé l'assassinat de JFK.
Et donc, vous voulez savoir qui est ce George ?
C'est George Bush.
C'est George Bush, père.
Père.
Et apparemment, le fils était là aussi, mais enfin, il était jeune, il avait 17 ans, oui. Il se promenait, et il voulait voir le président, il l'a.
Que faut-il en déduire, Marc Duguin ?
Ce qu'il faut en déduire, c'est que, vous savez que George Bush, père, a été patron de la CIA ensuite.
Pendant un an,
et qu'il a toujours nié avoir appartenu à la CIA avant d'être nommé directeur de la CIA, et aujourd'hui... ça fait partie des mystifications auxquelles plus personne ne croit. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Bush, depuis le début, était à la CIA. Ensuite, quand il dit « je ne sais pas, je ne me souviens plus où j'étais le 22 novembre 63 lors de l'assassinat de JFK », c'est quand même extrêmement bizarre. Et ensuite, effectivement, je montre dans le livre qu'il y a des tas de connexions qui font qu'il est forcément, je dis pas un des commanditaires de l'assassinat,
associé.
Mais qu'il est forcément dans cette mouvance extrêmement complexe qui, à un moment donné, a conduit à l'assassinat de JFK.
Mais comment vous expliquez, Marc, finalement, parce que ça remonte tellement loin, cette histoire, que le mystère, comme ça, sur cette mort des Kennedy qui persiste, cette théorie du complot, qui fait d'ailleurs plus penser à un film hollywoodien qu'à une vérité établie, vous imaginez tout ce que l'on pourrait déduire de ça? Vous imaginez tout ce que on pourrait dire sur les théories du complot jusqu'au 11 septembre, les scandales qu'on a entendus?
Non, mais ça n'a rien à voir.
Ça
cinglés qui sont dans les théories du complot sur le 11 septembre, ouais. Ça n'a rien à voir.
Et les cinglés qui sont sur la théorie du complot des Kennedy, ça n'a rien à voir non plus? Il y en a.
Oui, mais il y en a, forcément. De toute façon, ouais. Toute affaire, moi j'ai enquêté sur le MH370, la disparition de cet avion... Ouais. Qui est une affaire extrêmement complexe. Et c'est pareil, il y a des gens qui sont délirants. Mais ça, dès le moment où il y a un drame comme ça, il y a des paranoïaques qui s'en emparent. Mais ce n'est pas eu la question. La chape de plomb qu'il y a sur l'assassinat des deux frères Kennedy, elle tient au fait qu'à la fois les commanditaires ne voulaient évidemment pas qu'on sache la vérité, mais les démocrates non plus. Parce qu'on ne peut pas faire la vérité sur l'assassinat des frères Kennedy sans salir l'image des Kennedy.
Mais là, vous dites qu'il y a la théorie du complot, que c'est un complot. Vous le démontrez pendant 400 pages. Vous l'avez toujours cru, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire de ça? Parce que vous n'avez pas de preuves au final. Personne n'a de preuves, sinon on aurait la vérité là. Mais on aurait tous les journaux qui détailleraient ce qui s'est passé en 1963.
Mais des preuves, elles sont évidentes. C'est-à-dire si,
elles ne sont pas évidentes tant qu'elles ne sont pas sur la table.
Si
Marc.
On prend le temps, mais elles sont sur la table. Elles sont dans mon livre. Elles sont pas que dans mon livre. Je peux vous citer centaine de livres qui prouvent qu'il y a eu complot.
Comment vous
expliquez qu'il y a eu autant d'assassinats autour de gens qui étaient témoins, qui étaient chaque fois que quelqu'un était convoqué devant une commission, que ce soit la commission Church ou toute personne qui avait un témoignage crucial disparaît.
C'est troublant.
C'est quand même troublant. Ouais. Alors après, moi je suis pas un porteur de vérité. Hein. Je suis un homme de fiction.
Un homme convaincu.
Mais j'aime bien la réalité aussi.
Le mot de la fin, c'est toujours pour un libraire. Cette semaine, on conclut avec le Canada. Marie-Noëlle Blé.
Oui, comme mes collègues, j'ai adoré. Monsieur Duguin, votre tête d'écrivain est un formidable labyrinthe dont on sort assurément plus intelligent, mais aussi plus parano. J'ai adoré m'y perdre. Votre roman donne l'impression d'ouvrir une infinité de tiroirs contenant des dossiers classés secret défense, ce qui rend forcément la lecture très prenante. J'en suis ressortie totalement enthousiasmée, voire complètement exaltée.
Vous avez séduit tous nos libraires, Marc
Merci
Duguin.
Merci beaucoup.
Bravo, félicitations. Merci beaucoup d'être venu à nouveau dans la librairie francophone. Ils vont tuer Robert Kennedy, c'est chez Gallimard. Vous allez en faire un film, je suppose.
Oui, il y a de bonnes chances.
Oui. Bien. Merci Marc, à très bientôt.
Merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici Chaton avec un extrait de poésie.
Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint, je ne répondrai jamais plus de rien. Je ne me sens pas très bien depuis la fin des années 80. Pourtant la vie est facile, il suffit de baiser les gens droit dans les yeux. Mais j'ai le sommeil fragile de faire simplement bien quand je pourrais faire mieux. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. J'ai pas le refrain qui en dit long, seulement quelques mots brisés dans la coche. Je fais pas le malin sous les néons, quand je lui mets ma folie dans la coche. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment fort. Parfois j'ai besoin d'un second craft, quand simplement respirer devient un effort. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. plus jamais le coup. Ça va pas du tout. J'irai pas jusqu'au bout. Quelques années en Erasmus, la sauté je peux lycéenne. Je ne demandais pas vraiment plus qu'un dernier volcan bouillant dans les veines. Je rêvais de remplir des salles, pas de remplir des verres dans mon salon. Comme un con devant l'intégrale d'une série, la main dans le pantalon. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal.
C'était Chaton avec Poésie, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Hélène Bizio avec Antoine Gomez, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Bégafelé et Yannick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Corinne de Sarzan et Sorge Chalandon, entre autres. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut.